Chapitre 23. De mon donjon, je n'ai rien raté de la scène. Les deux promeneurs devant mon cerisier, les rubans d'argent dans les cheveux, la boue sur les godasses, juste devant la scène du crime. Devant chez moi. J'aurais tort de me priver, vous ne trouvez pas? Leur histoire ne vous semble pas banalement évidente. Une romance entre le bel inspecteur débarqué de nulle part et l'institutrice qui attend son sauveur. Ils sont encore jeunes, ils sont beaux. Ils ont leur destin devant eux, entre leurs mains. Tout est en place. Le temps encore de quelques rendez-vous. La chair fera le reste. Je quitte ma tour. Je peste. Je mets de longues secondes à descendre chaque marche. Je vais mettre encore plusieurs minutes à fermer ces trois serrures. J'ai même du mal à refermer la porte de chêne, elle est aussi lourde et aussi vieille que moi. C'est à croire que les charnières rouillent chaque nuit. À chacun ses rhumatismes, remarquez. Je repense au flic et à l'institutrice. Oui, ces deux-là rêvent de crever le tableau, de déborder du cadre. Leur fuite est programmée sur une moto chromée et rutilante. Quelle fille ne rêverait pas d'une telle fuite, hein? À moins qu'un grain de sable ne se glisse, évidemment. À moins que quelqu'un n'écrive l'histoire autrement.
Tu viens, Neptune?
Je marche. Je marche. Comme souvent, je coupe par le parking du musée d'art américain. Je passe devant le bâtiment. Comme d'habitude, je bougonne toute seule contre cette architecture hideuse, genre pavillon des années 1970. Je suis au courant, bien entendu. Un grand jardin était prévu pour dissimuler le musée. Ils ont planté devant lui un labyrinthe de troènes et de tuyas, il y a des années. Ils appellent cela un jardin impressionniste. Moi, je veux bien. Mais j'en connais dans leur lotissement qui ne voudraient même pas de ces haies pour remplacer leur clôture. Maintenant que les Français ont racheté ça aux Américains pour en faire le musée des impressionnismes, peut-être qu'ils vont tout raser. Je vais vous dire, si on me demandait mon avis, je serais plutôt pour. Enfin, de toute façon, je serai morte avant que tout cela se fasse. Pour l'instant, ils se sont juste contentés de poser dans le champ derrière le musée quatre meules de foin à l'ancienne. Il ne manque que la fourche plantée dedans. Je trouve que ça fait un peu bizarre derrière les tuyas, mais après tout, ça a l'air de plaire. Il y a souvent des touristes ravis qui posent devant. Lorsque j'étais plus jeune, je montais souvent derrière le musée, après la galerie Cambour. La vue sur les toits en terrasse végétalisée du musée est un peu comme des touristes, mais assez surprenante, même si la plus belle vue demeure celle de la colline au-dessus du château d'eau. À défaut de jambes, il me reste les souvenirs. Je marche encore. Ma canne instable gratte le pavé. Pendant qu'un groupe de 5 personnes me double, des vieux, enfin, moins que moi. Ça parle anglais. C'est toujours ainsi en semaine. Giverny est aussi désert que n'importe quel autre village, à l'exception des autocars, des tours opérators. Les 3/4 des visiteurs qui descendent du car parlent anglais et font un aller-retour dans la rue Claude Monet, vont jusqu'à l'église et reviennent par la même route. À l'aller, ils regardent les galeries. Et au retour, ils achètent. Le week-end, c'est différent. Les Parisiens débarquent, et puis les Normands, un peu. Même si le groupe devant moi me distance, j'avance à mon rythme. J'aimerais pouvoir accélérer le pas quand je passe devant la galerie Candy. Amadou Candy tient la plus vieille galerie d'art de Giverny. 30 ans que je le croise. 30 ans qu'il me rase. Raté. Son magasin d'art ressemble à une sorte de caverne d'Ali Baba. Il franchit le pas de sa porte dès qu'il me voit.
Alors, ma belle, toujours à traîner dans les rues comme un fantôme?
Bonjour, Amadou. Excuse-moi, je suis pressée.
Et il éclate de son grand rire de géant sénégalais. À ma connaissance, il est le seul Africain du village. Parfois, je passe un peu plus de temps avec lui. Il me raconte ses affaires, ses rêves de négocier un jour un monnaie, lui aussi. Le jackpot, un nymphéa, n'importe lequel. En noir, pourquoi pas. Parfois, lui aussi rôde autour du moulin des Chenevières. Amadou Candy trafiquait pas mal avec Jérôme Morval. Je dois rester méfiante. J'ai aussi appris qu'il a eu affaire aux flics, il n'y a pas si longtemps. Je continue. La rue Claude Monet m'apparaît chaque jour plus interminable. Les touristes s'écartent devant moi pour me laisser passer. Parfois, il y a même des connards pour me prendre en photo, comme si je faisais partie du paysage. 71. J'y suis. Je détaille le nom sur la boîte aux lettres. Jérôme et Patricia Morval, comme si le couple vivait encore sous le même toit. Je comprends Patricia. Ce n'est pas facile de gratter une étiquette au nom d'un mort. Je sonne à la cloche, plusieurs fois. Elle sort. Elle semble étonnée. On le serait à moins. Cela fait des mois qu'on n'a pas échangé plus de deux mots, un bonjour dans la rue tout au plus. J'entre, je m'approche, je chuchote presque à son oreille. « Il faut que je te parle, Patricia. J'ai des choses à te dire, des choses que j'ai apprises et d'autres que j'ai comprises. » Lorsqu'elle me laisse passer, je remarque qu'elle est blême. Les deux immenses nymphéas dans le long couloir me donnent le tournis. Moins qu'à Patricia, visiblement. J'ai l'impression qu'elle va tourner de l'œil. Elle a toujours été un peu faiblarde, la Patricia. Elle bredouille. Cela concerne le meurtre de Jérôme? Oui, entre autres confidences. J'hésite. Malgré tout, même si je n'ai plus rien à perdre, ce n'est pas facile à lui jeter à la figure ce genre d'aveu. Je voudrais vous y voir. J'attends qu'elle soit assise dans un fauteuil en cuir du salon et je lui lance. « Oui, Patricia, cela concerne le meurtre de Jérôme. Je connais le nom de son assassin. »